Bienvenue dans le module 3 de ce cours d'initiation au code pour les vrais débutants. Dans le module 2, on a appris à développer le jeu Le Nombre Mystère dans une application de type console, c'est-à-dire sans interface graphique. Je vais vous la remontrer. Et durant ce module, on va apprendre à en faire une version améliorée, donc avec une couche d'interface graphique, avec des boutons, des contrôles de saisie, etc. On va faire ça avec la technologie WPF qui va me permettre de vous expliquer ce qu'est la programmation événementielle. La différence donc avec la version précédente, c'est qu'ici, je vais avoir une zone de saisie. Je vais rentrer une valeur. Ah, j'ai gagné, c'était 10. Remarquez qu'une fois que j'ai trouvé le nombre mystère, le bouton valider va se désactiver. On va apprendre à faire tout ça durant ce cours. Cette application, elle reste malgré tout assez simple en termes d'ergonomie. Et dans une deuxième vidéo, donc une deuxième partie de ce module, Michel Rousseau, le designer de notre équipe d'évangélistes techniques de Microsoft, va vous expliquer comment la transformer de cette manière-là. Voilà, donc c'est la même application et c'est le même code source à la base qu'on va utiliser, donc celui que vous aurez codé durant ce cours. Il va utiliser un outil qui s'appelle Blend. Il va reprendre le projet sans rien changer. Et il va améliorer toute cette partie d'ergonomie en rajoutant un fond de fenêtre, en rajoutant des spécificités sur les boutons, des couleurs de fond, des animations, etc. Il va vous expliquer comment faire tout ça avec un outil sans modifier votre code source. On va commencer par la première version de l'application WPF. Donc, quelle est la différence entre la technologie WPF et une application console? Et bien justement, c'est l'ajout de cette couche graphique qui va nous permettre de rajouter des contrôles dans une fenêtre. Des contrôles, c'est quoi? C'est des boutons, des zones de saisie, des libellés, etc. La différence, c'est que du coup, on ne va pas avoir un main dans une classe programme, mais on va avoir une fenêtre qui s'appelle main, une main window. On verra ça tout à l'heure dans le code. Ce qui ne change pas, c'est qu'on reste toujours sur une application de bureau, donc qui est installée sur votre PC. C'est un exécutable, un .exe. Et on reste toujours en langage C#, donc ça ne va pas changer. Ce qui va se rajouter, c'est la couche graphique qui, elle, sera développée dans un autre langage qui s'appelle le langage XAML, qui est un langage de programmation déclaratif, un petit peu comme le HTML. Alors, on va créer ensemble le nouveau projet. On va rester toujours dans la même solution. Je sélectionne ma solution cours débutant. Si vous n'avez pas réalisé, toutes les étapes précédentes, vous pouvez récupérer en pièce jointe du module 2 la solution dans le même état que celle que j'utilise maintenant. Clic droit sur la solution cours débutant. Je fais ajouter nouveau projet. Et cette fois-ci, donc je suis toujours dans Visual C# Windows, mais cette fois-ci, je vais sélectionner application WPF. Je vais lui donner un nom, on va l'appeler nombre mystère WPF. Je clique sur le bouton OK, et je vais avoir un troisième projet qui se rajoute dans ma solution. Remarquez que cette fois-ci, je ne vais pas avoir de fichier programme.cs dans mon projet. Je vais avoir un app.xaml dont on ne va pas s'occuper pour l'instant, un app.config bon, qu'on avait avant aussi, on ne s'en occupe toujours pas, mais je vais avoir une mainwindow.xaml. Si je déplie ce mainwindow.xaml, je vais trouver également un fichier mainwindow.xaml.cs. Donc le .cs, je vous le rappelle, c'est pour dire C#, c'est là-dedans qu'on aura notre code C#. Et le mainwindow.xaml, c'est le fichier dans lequel on va avoir toute la déclaration de l'interface graphique, la liste des contrôles qu'on souhaite utiliser. C'est un des principes fondamentaux de WPF, le fait de séparer la partie ergonomie, interface graphique, une fenêtre avec ses contrôles, on le décrit dans un fichier, et le code source C#, on l'écrit dans un autre fichier. Donc ces deux choses-là sont décorrélées. Mais malgré tout, on va associer les contrôles graphiques à des morceaux de code, à des méthodes de notre code source écrit en C#. Par exemple, on a ici un bouton nouvelle partie. Et souvenez-vous, dans notre code source, on a codé une méthode nouvelle partie aussi. Donc en fait, quand on va cliquer sur ce bouton, ça va déclencher un événement qu'on va associer à notre méthode nouvelle partie. De la même manière, quand je vais saisir un nombre ici et que je clique sur « Valider », Je vais associer l'événement de clic sur valider à la méthode try again. Et ainsi de suite. Alors, quand je clique ici sur la petite croix pour fermer ma fenêtre, ça aussi c'est un événement et il est interprété par l'application en tant que tel. Et il se trouve que là c'est automatique, on n'a pas de code à écrire, ça ferme la fenêtre tout simplement. Mais voilà en fait comment on relie l'interface graphique au code qui est associé pour chacun des événements. Voilà pour le principe. Donc revenons à notre code source. Quand je double-clique sur mainWindow.xaml, je me retrouve ici à gauche avec une fenêtre divisée en deux. Dans la partie du haut, j'ai un aperçu de ma fenêtre avec l'ensemble des contrôles qui sont présents. Là, on n'en voit pas, mais c'est normal. Et puis en dessous, on voit justement le code XAML qui est écrit pour cette fenêtre-là. Alors, il y a différentes manières de rajouter des contrôles dans une fenêtre. La première et la plus simple, c'est la boîte à outils. Donc ici à gauche, je clique sur boîte à outils. Si je veux que ça reste ouvert, je peux l'épingler. Voilà. Dans tous les contrôles WPF, ici, si je déplie, je vois l'ensemble des contrôles disponibles que je peux glisser et déplacer dans ma fenêtre. Je vais faire un petit essai, je vais prendre un bouton. Je prends, je glisse, je déplace et je le pose dans ma fenêtre. Je peux le déplacer, je peux le redimensionner. Alors je vais mettre autre chose, une checkbox par exemple. C'est donc une case à cocher. Donc vous pouvez remarquer que chaque fois que je déplace ou que je rajoute un contrôle, l'équivalent en code XAML apparaît dans la zone qui se trouve juste en dessous. Donc dans mon fichier, dans mon code XAML, ce que je vais trouver, c'est un ensemble de balises. Une balise, c'est quoi? C'est un mot-clé encadré par inférieur, supérieur. Donc en principe, on a une balise ouvrante et une balise fermante. La balise fermante, c'est la même chose, mais il y a un slash devant le mot-clé. Vous voyez ici, la balise ouvrante de Window, c'est celle-ci. Donc elle va de l'inférieur jusqu'au supérieur. Et la balise fermante de Window se trouve ici. Il y a un petit slash devant le mot-clé Window. Et ensuite, dans ma fenêtre, je vais avoir une grid, c'est une grille. Donc on ne la voit pas, c'est normal. Ensuite, donc il a placé les contrôles boutons et checkbox. Si je me positionne ici dans mon XAML sur un des contrôles, le bouton par exemple, vous voyez, c'est celui qui est sélectionné automatiquement du coup dans mon aperçu. Et inversement, hein, si je sélectionne ma checkbox, ce qui va être sélectionné, on ne le voit pas très bien en fait, mais ici c'est sélectionné, c'est surligné en gris clair dans mon code XAML, c'est la checkbox. À l'intérieur d'une balise de contrôle, on va retrouver un ensemble de mots-clés qu'on appelle des propriétés. C'est en fait une manière de configurer le contrôle. Par exemple, je vais avoir une propriété sur mon bouton qui s'appelle content, c'est le contenu du bouton. Donc par défaut, on m'a mis le texte button, mais moi je peux changer le texte, je peux dire par exemple nouvelle partie. Donc ça se fait soit directement dans le code XAML, soit je peux le faire avec la fenêtre des propriétés ici. Donc il suffit que je sélectionne un contrôle soit dans l'aperçu visuel, soit dans mon code XAML, et je vais pouvoir retrouver ici toutes les propriétés qui lui sont associées. On voit bien ici qu'il est de type button. Pour l'instant, il n'a pas de nom, je peux lui donner un nom, on verra à quoi ça sert tout à l'heure. On voit que la propriété content ici a bien la valeur nouvelle partie. Et si je rajoute par exemple un point d'exclamation, eh bien il se rajoute partout dans mon aperçu graphique et également dans mon code XAML. Voilà, donc ça c'est valable pour toutes les propriétés. Alors, vous n'êtes pas obligé de connaître toutes les propriétés par cœur, hein, pour chacun des contrôles, ne vous inquiétez pas, on verra ça en temps et en heure et vous n'aurez besoin d'apprendre que celles dont vous aurez besoin pendant ce cours. Je vais supprimer le bouton et la checkbox que j'avais mis en place pour vous faire une petite démonstration. Et ce que je vais vous demander maintenant, c'est de placer vous-même les contrôles dont nous aurons besoin dans le jeu Le Nombre Mystère. Pour vous aider, je vais vous montrer l'application qui est finalisée. Donc je vais avoir un libellé ici qui a pour texte « J'ai choisi un nombre entre 1 et 20, trouve-le ». Je vais avoir un autre libellé pour le nombre d'essais. Bon, c'est facultatif, on n'est pas obligé de le mettre, hein. Ensuite, je vais avoir un champ de saisie pour saisir les différents essais de l'utilisateur. Et puis, deux boutons, valider une nouvelle partie. Alors, je vous laisse faire. Je vous rappelle que quand vous entendez le petit bruit de maracas, ça veut dire qu'il faut mettre la vidéo sur pause et que vous trouviez la réponse à la question que je vous pose. Donc c'est parti, à vous de jouer. Donc il y a deux manières de rajouter des contrôles dans ma page. Soit je vais glisser-déplacer les contrôles depuis la boîte à outils, soit je les tape directement en XAML. Alors souvent les développeurs, ils n'aiment pas trop utiliser la souris, ils préfèrent taper directement sur le clavier du code, même si c'est du code XAML. Et je fais partie effectivement de ces gens-là. Donc je vais avoir besoin d'un label. Donc libellé, c'est le contrôle label. Alors ça, il n'y a pas de mystère, il faut les trouver. Malgré tout, dans la toolbox, la boîte à outils, vous allez voir quand même des petits icônes qui peuvent vous donner, vous indiquer, vous donner une bonne indication de ce que ça pourrait être. Donc le mieux, si vous ne savez pas ce que c'est de les glisser, déplacer pour voir la tête qu'ils ont. Et puis, une fois que vous les connaissez, bon, ben, en principe, on les retient assez bien. Donc je vais avoir deux labels. Donc, encore un label. Ce que je vais avoir également, c'est donc un champ de saisie. Donc ça, c'est un textbox. Textbox avec... Voilà, textbox. Alors, j'ai pris un label, mais on aurait pu utiliser un texte bloc aussi. J'ai choisi le label parce que du coup, on ne va pas se mélanger les pinceaux entre textbox et texte bloc quand je vous expliquerai, quand je vous parlerai d'un des contrôles ou de l'autre. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Et puis les deux boutons. Donc c'est button, button et encore button. Voilà. Alors là, tout est mélangé. On ne voit rien du tout là-dessus. Pourquoi? Parce que par défaut, chaque contrôle que je vais placer dans ma grille, il va prendre la taille maximale de la grille. Là, je n'ai pas du tout indiqué de positionnement de chacun de mes contrôles. L'idée, c'est pas de placer chacun des contrôles manuellement à la main, avec telle marge, telle hauteur, telle largeur, etc. Le développeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser un contrôle de layout, c'est-à-dire de positionnement, qui va englober ces différents contrôles. Et moi, ce que je vais choisir de faire, tout simplement, c'est de les placer les uns au-dessus des autres. Donc, ils vont se placer verticalement, en fait, les uns en dessous des autres. Et pour ça, j'utilise le contrôle de layout, qui est un stack panel. Donc ça, vous ne pouvez pas le savoir, évidemment. Donc, comment je fais? Simplement, je vais placer la balise ouvrante du stack panel au-dessus de mes contrôles et je vais refermer en dessous. Donc là, vous remarquez d'ailleurs que l'organisation du code XAML s'est faite automatiquement. Il a rajouté une tabulation pour tous les contrôles qui sont à l'intérieur du stack panel. Ça me permet de mieux lire le code. Alors, malgré tout, ce n'est pas encore très explicite tout ça. Mon label, je vais lui rajouter du texte. Soit je vais préciser la propriété content dans mon code XAML. Content égale, qu'est-ce que j'avais mis, je ne sais plus. J'ai choisi un nombre entre 1 et 20, trouve-le, ok. Choisis un nombre entre 1 et 20, trouve-le. Le libellé suivant, alors celui-là, on ne peut pas encore lui mettre de valeur puisque c'est le nombre d'essais. Si, je peux lui mettre quand même content égale NB essai 0. Donc par défaut, on en a fait 0. Mais ça, il faudra qu'on le modifie par la suite dans notre code C#. Donc on modifiera la propriété content de ce label-là. Le textbox, ben, il n'y a rien dedans. C'est normal puisque c'est le champ de saisie. Par défaut, on n'a rien saisi. Le premier bouton dans le content, on va lui mettre valider. Dans le bouton suivant, alors cette fois-ci, je vais me positionner sur le bouton et je vais modifier la propriété content. Ici. Alors quand on ne la trouve pas, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on utilise la zone de recherche des propriétés ici. Parce que comme il y en a beaucoup, il y en a toute une liste, on a un petit peu du mal à la trouver. Mais si vous savez à peu près comment elle s'appelle, vous tapez cont, bon, je tape cont, je trouve du coup directement content. Et ici, je vais pouvoir préciser nouvelle partie. Voilà, enter. Et l'ergonomie de mon application commence à correspondre à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors je peux également modifier le titre de ma window. Donc plutôt que de l'appeler au main window, je vais l'appeler le nombre mystère. Voilà. Et je crois qu'on a à peu près tout. On va démarrer notre application. Pour la première fois, je clique sur le bouton démarrer ou j'appuie sur la touche F5. On était encore placé sur le projet Nombre mystère en console. Vous voyez, c'est celui-ci qui est en gras. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner sur le projet Nombre mystère WPF. Je vais faire un clic droit et j'appuie sur Définir comme projet de démarrage. Maintenant, c'est lui qui est en gras. Et si je fais F5, ça devrait marcher. Voilà, mon application est lancée. J'ai bien un champ de saisie. Il ne se passe rien quand je tape quelque chose dedans. Il ne se passe rien quand je clique sur le bouton valider. Quand je clique sur le bouton nouvelle partie non plus. La seule chose qui est traitée automatiquement, c'est les événements liés vraiment à la taille de la fenêtre et au fait qu'on ferme la fenêtre. Donc si j'agrandis ma fenêtre, ça marche. Tout ce qui est dans ce bandeau-là, en fait, c'est géré par le système. Donc la fin de l'application est gérée elle aussi par le système sur le bouton avec la petite croix ici, fermée. Ça fonctionne. Quels sont les événements qui m'intéressent dans mon application et que je vais devoir traiter dans mon code? Tout d'abord, il y a le démarrage de l'application. Je vais vouloir démarrer une nouvelle partie. Donc c'est au chargement de la fenêtre en fait. Ensuite, je vais avoir le bouton nouvelle partie. Là aussi, je vais vouloir démarrer, exécuter la méthode nouvelle partie, celle qu'on a déjà écrite dans notre application console. Et sur le bouton valider, je vais vouloir, alors là j'ai deux cas, hein, soit l'utilisateur a trouvé le nombre mystère et je voudrais appeler la méthode uwin, soit l'utilisateur n'a pas trouvé et à ce moment-là, on va appeler la méthode tryAgain. Ce que je vais devoir faire maintenant, c'est préciser les événements que je souhaite utiliser et sur quel contrôle je souhaite les utiliser. Donc tout d'abord, sur ma fenêtre, je vais vouloir gérer l'événement de démarrage, en fait, ou l'ouverture de la fenêtre, c'est ça en fait le démarrage de l'application. Donc ça, c'est l'événement loaded. Donc les événements, c'est comme les propriétés en fait, hein. Ça se trouve sur... Ce sont des mots-clés qu'on rajoute dans la balise du contrôle lui-même. Et quand on les voit ici dans la liste des propriétés et des événements, on voit que les événements sont précédés d'un petit éclair. Et les propriétés sont précédées d'une petite clé à molette. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est l'événement loaded. Donc je vous le dis, vous ne pouvez pas le deviner. Et une fois que j'ai tapé loaded, je vais avoir une petite aide de Visual Studio qui me propose de créer une méthode associée à cet événement. Donc ça va vous parler un petit peu. Méthode, ça veut dire du code C#. Donc ça sera disponible dans un autre fichier, le fichier mainwindow.xaml.cs. Donc je dis OK, crée-moi une nouvelle méthode associée à cet événement. Il l'a appelée UwindowLoaded. Vous verrez qu'on la retrouvera dans le code source, en C#. Ensuite, je souhaite également rajouter les événements clic sur les deux boutons. La première chose que je vais faire avant de rajouter ces événements clic, c'est que je vais nommer mes boutons. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Alors le nom du bouton, ça se définit avec la propriété name. Ou alors, je peux le faire directement dans la fenêtre de propriété ici. Donc, il y en a un, c'est validé. On va voir si je suis sur le bon. Voilà. Vous voyez, quand j'ai tapé sur la touche Enter après avoir saisi validé, je vois bien ici la propriété name qui se rajoute. Pareil ici. Ici, je vais l'appeler nouvelle partie. Voilà. Alors pour bien faire, en principe, enfin, moi ce que je fais, c'est que je précède toujours, j'utilise un ou deux caractères qui correspondent au type du contrôle pour m'y retrouver un petit peu dans mes nommages. Donc moi j'appelle ça BT validé, BT nouvelle partie, mais ça c'est moi. Voilà. Maintenant je vais rajouter les événements de clic sur les boutons. Et bien ça se fait avec l'événement qui s'appelle clic justement. Donc, soit ça se rajoute directement dans le code XAML comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour la fenêtre, clic égal et puis il me propose de créer un nouvel événement. Soit je vais me positionner dans la fenêtre des propriétés. Donc, je sélectionne le deuxième bouton, celui pour lequel je n'ai pas encore créé d'événement. Et je vais aller cliquer sur le petit éclair ici. Hop, quand je clique sur la clé à molette, je vais avoir les propriétés. Quand je clique sur le petit éclair, je vais avoir la liste des événements disponibles pour ce contrôle. Ce qui m'intéresse, c'est l'événement clic. Je vais double-cliquer dessus et il va me créer la méthode associée. Et d'ailleurs, il m'a directement positionné dans le fichier de code XAML correspondant à ma fenêtre main window. Vous voyez ici, je suis bien dans ma classe main window. Et je vois donc qu'il m'a bien créé trois méthodes, windowLoaded, btValidé underscore click et btNouvellePartie underscore click. On va réutiliser le code que nous avons écrit pour notre application console, mais malgré tout, il va différer un petit peu, puisqu'on n'a plus d'objet de classe console, puisque maintenant on est en WPF, on a une interface graphique avec des boutons et du code événementiel, donc ça va changer quand même un petit peu. Malgré tout, on va conserver l'idée d'avoir ces méthodes. Donc la première nouvelle partie. Donc c'est une méthode qui ne renvoie rien, donc on met void. On ne met plus le mot clé statique devant. Je ne rentre pas dans les détails, c'est pas la peine que je vous explique pourquoi. N'en tenez pas compte. Donc nouvelle partie. On va avoir try again. On va avoir you win. Et est-ce qu'on avait autre chose? Bah non, je crois que c'est tout. Voilà. Donc il va falloir remplir ces différentes méthodes. Et même d'ailleurs, avant de les remplir, on peut déjà les appeler aux endroits qui vont bien. Alors essayez de trouver à quels endroits on va appeler quoi. Nouvelle partie, on l'a vu, on doit l'appeler sur deux événements différents. Sur le window loaded. Voilà, il n'y a pas de paramètres. On met malgré tout le point virgule à la fin. Et puis sur nouvelle partie aussi. Donc, je peux reprendre ce code. Faire copier-coller. Ensuite, il y a try again et you win qu'il va falloir appeler en fonction que le nombre soit correct ou non. Ce nombre, où est-ce qu'on va le trouver? Eh bien, on va le trouver dans le contrôle. Comment je l'ai appelé? Je ne l'ai pas appelé justement. Alors, je vais vous expliquer. En fait, pour faire référence à un contrôle dans mon code source, je suis obligée d'avoir nommé mon contrôle dans le code source. Il y a des manières plus évoluées de faire ça différemment, mais on va dire que pour les débutants, c'est très bien de nommer les contrôles et de le traiter comme ça. Donc, mon textbox, donc mon champ de saisie, je vais lui donner un nom. On va l'appeler TB essai. Voilà. Et du coup, si je me replace dans l'événement validé, je vais pouvoir récupérer la valeur qui a été saisie par l'utilisateur dans le champ. Ça se fait en utilisant la propriété text du textbox. Alors comment je fais si je veux la récupérer? Par exemple, je peux la stocker dans une variable. C'est une chaîne de caractères qu'on va récupérer, donc c'est un type string, donc je déclare une nouvelle variable de type string. Je peux l'appeler essai égal. Donc le nom de mon contrôle, je l'ai appelé tb essai point texte. En fait, finalement, on travaille sur un objet tbessai et la propriété texte, on la rajoute derrière le point finalement comme si on utilisait une méthode. Donc que ce soit une méthode ou une propriété pour un objet, à chaque fois, on sépare les deux par un point. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux savoir si cet essai qu'a fait l'utilisateur, il correspond au nombre aléatoire qui a été choisi par la machine. Ah, c'est ça que j'ai oublié, c'est génère nombre aléatoire. Donc, c'est cette méthode que je n'avais pas encore précisée. Alors, génère un nombre aléatoire, par contre, il renvoie un entier. Celui-là, je peux reprendre directement le code qu'on avait fait dans notre application console, puisque là rien ne change, à part le statique que je vais enlever. Alors, on a int génère nombre aléatoire. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est à un moment donné, une fois qu'on a généré un nombre aléatoire, si l'essai correspond à celui-ci. Bon, le nombre aléatoire, on ne le génère qu'une seule fois par contre. Donc celui-là, on va le mettre dans le code de nouvelle partie. Donc on a un nombre aléatoire int random égale génère nombre aléatoire. Et on va vouloir le tester une fois qu'on clique sur le bouton valider. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un peu plus tôt, je vous ai expliqué qu'on ne pouvait utiliser une variable que dans la méthode dans laquelle elle était déclarée. Donc là, je vais avoir un souci. Si je veux faire un test sur randomed, comparer randomed et essai, ben, je ne vais pas pouvoir le faire dans la méthode validée comme ça. Alors, je vais introduire un nouveau concept qui est le concept des propriétés de classe. Donc, ce sont des variables qui appartiennent non pas à une méthode, mais à une classe. Donc, en fait, on peut les utiliser partout, dans toutes les méthodes de la classe. Comment ça marche? Eh bien, simplement, il suffit de les déclarer au niveau de la classe. Quand je dis au niveau de la classe, ça veut dire entre les accolades qui correspondent à la classe. Donc, plutôt que de déclarer mon random ici, je vais faire un int randomed là. Et une fois qu'il est déclaré, j'ai plus besoin de préciser son type. Donc, dans nouvelle partie, j'enlève ça. Je veux juste y faire référence. Voilà. Il y a encore une petite chose à savoir, c'est qu'en principe, quand on utilise des variables de classe, enfin, des propriétés en fait, on change un petit peu le nommage. Quand on relit le code, on comprend que la portée, c'est-à-dire les endroits où elles sont accessibles, c'est différent de si c'était simplement des variables déclarées localement au niveau d'une méthode. On met une majuscule. Ça dépend des langages, ça dépend des conventions de nommage, mais nous, on va faire ça. Voilà. Maintenant, je peux utiliser ma variable randomed, même dans ma méthode btValideClick. Alors, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir comparer randomed et essai. Il y a un truc qui devrait vous faire tilt. Est-ce que je vais pouvoir comparer facilement ma variable random et ma variable essai? Ce qui devrait vous faire tilt, c'est que essai est de type string et random est de type int. Donc je vais d'abord devoir transformer essai dans un entier. Mais attendez voir, ça me rappelle quelque chose, cette histoire de conversion de chaîne de caractères en entier. J'ai déjà fait ça quelque part. Je vais regarder mon programme.cs. Et oui, dans mon picker-number, finalement, c'est exactement ce que je faisais. Je vais reprendre la méthode picker-number. Je vais peut-être avoir à la modifier un petit peu, mais peut-être pas tant que ça. Dans mon événement validé, donc j'enlève le statique, dans mon événement validé, je vais appeler pick a number. Int picked égale pick a number. C'est exactement ce que je veux. Et c'est dans mon pick a number que, à la place du console.readline, je vais appeler mon contrôle tb-essai.text pour récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Ici, je vais avoir la transformation comme avant. Qu'est-ce qui change maintenant encore? C'est le console.writeline. That's not a number, try again. Eh ben, je ne peux pas le mettre en console.writeline, mais je pourrais le mettre quand même dans un petit texte d'information pour l'utilisateur. Et du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est rajouter dans ma window un libellé d'information. Label, je vais l'appeler... Donner un nom, je vais l'appeler TB, non, L comme label, L info. Voilà. Et du coup, simplement, je ne vais pas faire de console.writeline, je vais faire un L info. Alors, quelle est la propriété qui permet de modifier le libellé d'un label? C'est content égale, et ben, la même chose, hey, that's not a number, try again. Je vais enlever le double point. Et voilà. Pict égale console.readline, celui-là, on n'en a plus besoin puisqu'on travaille en événementiel. Simplement, la prochaine fois qu'on cliquera sur bouton valider, justement, il rappellera pick a number. Donc, je n'ai pas besoin de faire de readline. Le pict, il est déjà au-dessus. Et du coup, je n'ai pas besoin du while ici. While is numérique égale false. En fait, il va boucler tout le temps sur la même chose. Ça ne va pas aller. Du coup, je vais remplacer par un if. Puisque finalement, ce while, il va être remplacé par le fait que chaque fois que j'essaye, je clique. Donc finalement, c'est un while manuel. Hein, c'est l'utilisateur qui va faire le while. C'est lui qui va réessayer à chaque fois. Donc if is numérique égale false. Voilà. Ici, je l'enlève. Il n'y a plus grand-chose. Voilà. Par contre, bah, on va essayer. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je démarre. Vous verrez par vous-même ce qui va se passer. Alors, bon. Je vais rentrer Toto. Je clique sur valider. Hey, that's not a number. Try again. Ah, super. Maintenant, si je rentre autre chose, 9, je clique sur valider. Bah, il laisse hey, that's not a number. Try again. Donc, ça, c'est pas génial. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à votre avis? Je vais devoir utiliser un else sur mon if. Puisque si isNumérique égale true, et ben du coup, on va vider info.content. Comment on fait pour le vider? Simplement, on va lui mettre une chaîne vide. Comme ça, je réessaye. Je tape Toto. Je clique sur valider. Il me dit que c'est pas un nombre. Et maintenant, si je tape 6. Je clique sur valider et ça s'efface. Donc, il n'a rien à me dire, c'est bon. Très bien. Maintenant que j'ai récupéré mon nombre, je vais pouvoir le comparer à randomed. Donc, ça aussi, c'est du code qu'on avait déjà écrit à un moment donné. Je vais regarder ce que j'avais écrit. Alors, j'avais écrit ici. Donc, une fois que j'appelais mon pick a number, donc c'est ce qu'on a déjà écrit. Je faisais un while picknum différent de random. Try again. Donc, je vais reprendre ça. Ah, pas le premier, parce qu'on l'a déjà écrit. Dans mon bouton valider. Mais quand je clique sur valider, je veux qu'il valide une fois le nombre que j'ai tapé. Donc, encore une fois, je ne veux pas faire de while. Je veux faire un if. Donc, je vais faire if pictNum. Donc, je vais l'appeler pictNum aussi ici. If pictNum différent de random. Mon random ici, il a une majuscule. Hein, c'est une propriété de ma classe. Donc, vous remarquez que partout où j'utilise random sans majuscule, il me souligne en rouge. C'est plus facile, de trouver les petites erreurs comme ça. Voilà, donc if pictNum différent de randomed, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut signaler à l'utilisateur qu'il n'a pas gagné, qu'il doit essayer encore, donc on veut appeler try again. Mais notre try again, du coup, il va être vraiment tout simple. On va simplement informer l'utilisateur qu'il doit retaper quelque chose dans la zone de saisie et cliquer à nouveau sur valider. Et puis évidemment, dire aussi à l'utilisateur si c'est plus ou moins que le nombre qu'il a saisi. Donc ça, c'est pareil, je peux le reprendre dans le try again que j'avais déjà écrit dans l'application précédente, hein, l'application console. Donc je vais reprendre le if then else que j'avais. Je vais le coller dans try again. Donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de comparer picNum à random. Random, je l'ai déjà, c'est une propriété de ma classe. Donc c'est. Ça s'écrit avec le R majuscule et j'y ai accès. Par contre, picNum, effectivement, il va falloir que je le passe en paramètre. Alors, soit je fais une propriété de la classe qui s'appelle picNum, mais cette fois-ci, bah, pour changer, je vais choisir de passer un paramètre à la méthode tryAgain. Comment on fait pour passer un paramètre? Quand on l'appelle, eh ben, on indique le paramètre entre les parenthèses. Et dans la signature de la méthode, dans la définition de la méthode, la déclaration de la méthode, on va. Mettre le type, donc c'est un entier. Je vais donner le même nom, num. Voilà. Donc là, on peut comparer les deux. On peut signaler l'utilisateur si c'est plus ou moins. Donc on va réutiliser notre libellé d'information L1 L info point content, pour modifier le libellé, égale it's less, encore mélanger l'anglais et le français. Allez, on va mettre c'est moins. Dans l'autre cas, c'est plus. Voilà. On remonte à l'appel de try again. Et cette fois-ci, voilà, on va passer uniquement PictoNum en paramètre, puisqu'on a qu'un seul paramètre à notre méthode. Et l'appel à la méthode uwin, vu qu'on n'a plus de boucle while et qu'on a un if maintenant, donc cette ligne de code sera exécutée dans tous les cas. Quand je passe dans la méthode validée, donc c'est pas ce qu'on veut, on veut qu'elle s'exécute uniquement quand j'ai gagné. Or, quand j'ai gagné, c'est quand je passe dans le else de ce if, qui n'existe pas encore. Donc quand picNum est égal à random. Donc je vais mettre un else. Donc si on est dans le cas où picNum égale random, bah là on sait qu'on a gagné, les deux nombres sont égaux. Est-ce que j'ai quelque chose dans uwin? Pas encore. Et bien dans uwin, il suffit de signaler l'utilisateur qu'il a gagné. Donc je vais modifier une fois de plus le libellé d'information. Et je vais dire c'est gagné. C'est gagné. Bravo. Voilà. Je vais démarrer mon application. On va voir ce que ça donne. Alors, je saisis un nombre. 10. Je clique sur valider, il me dit c'est moins. 5, c'est plus. 6, c'est plus. 7, c'est plus. 8, c'est gagné, bravo. Génial. Alors il y a encore des petites choses à améliorer. Par exemple, quand je clique sur une nouvelle partie, ce serait bien que je vide, que je vide le libellé c'est gagné pour qu'on sache qu'on recommence une nouvelle partie. Ce serait bien aussi que je vide le champ qui se trouve ici quand je démarre une nouvelle partie. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Sur uwin, non, sur nouvelle partie plutôt, on va vider ceci. Égal ça. Voilà. Ça devrait marcher mieux maintenant. 10, validé, c'est moins. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est vider le champ une fois qu'on a cliqué sur le bouton valider. Et quand on fait une nouvelle partie, comment on fait pour faire ça? On va utiliser le nom du contrôle, encore une fois. Et ça, c'est une textbox, donc je l'ai préfixé par TB. TB, et c'est point. Et là, c'est la propriété texte qu'il faut utiliser. Égal, voilà, je vide. Et sur nouvelle partie et sur bouton valider aussi. C'est après le pick a number. Une fois qu'on a fait le pick a number, en fait, on peut le vider. Je redémarre. J'essaie d'améliorer au fur et à mesure. Alors, 10, je clique sur valider. C'est moins. Cette fois-ci, 16, 8, c'est plus pratique. C'est souvent des choses toutes simples en fait qui améliorent la vie de l'utilisateur. Le fait qu'il n'ait pas besoin d'effacer la valeur qui apparaissait précédemment dans le champ, c'est tout bête à faire, ça se fait en une ligne de code, mais malgré tout, l'utilisateur apprécie et l'expérience utilisateur est bien meilleure. C'est plus, je ne sais plus où j'en étais. 8, c'est plus, 9. C'est gagné, bravo. Si je clique sur nouvelle partie, hop, c'est reparti. Ça fonctionne. Il y a encore une chose qui était améliorée, c'est la chose suivante. Si je tape du texte et que je clique sur valider, il me dit c'est plus, au lieu de me dire ce n'est pas un nombre, la saisie n'est pas valide. Pourquoi? Pour comprendre pourquoi, le plus simple, c'est de se mettre en mode pas à pas dans l'application et voir ce qu'il se passe. Donc je vais mettre un point d'arrêt au niveau de la première instruction du clic sur le bouton valider. J'appuie sur la touche F5 pour démarrer l'application et on va voir ce qui se passe. Je tape du texte, je clique sur le bouton valider. Je suis positionnée sur mon breakpoint. Je vais appuyer sur la touche F11. Je me retrouve maintenant dans la méthode PickANumber. Regardez bien toujours la ligne qui est surlignée en jaune. Donc, on va faire le try parse pour essayer de convertir ce texte en valeur numérique. Et normalement, voilà, is numérique égale false, ce qui va nous permettre d'afficher dans le libellé d'information que ce n'est pas un nombre qu'il faut réessayer. Et là, regardez, dans PickANumber, le code retour, ça va être PickNum. Or, PickNum, eh bien, il a quoi pour valeur, à votre avis? En fait, si je me positionne dessus avec mon curseur, je vois qu'il a pour valeur 0. Pourquoi il a pour valeur 0? Parce que la conversion avec le tryParse n'a pas réussi et il se trouve que la valeur par défaut d'un entier en C#, c'est 0. Du coup, cette valeur, il l'a toujours. Elle est restée à la valeur par défaut 0 et elle va être renvoyée, cette valeur, à la méthode appelante. Ici, donc ici, picNum est égal à 0. Or, l'instruction suivante va me permettre de tester si le nombre que l'utilisateur a tapé est random ou non. Là, il se trouve que ça vaut 0 parce que finalement, on n'a pas pu faire la conversion de la valeur saisie par l'utilisateur. Et du coup, on va passer dans le try again. Qu'est-ce qu'on fait dans le try again? On va dire c'est plus ou c'est moins, suivant que la valeur soit inférieure ou supérieure à random. Or là, on n'a pas affiché cette information puisqu'elle s'affiche dans le libellé d'information dans lequel on vient de dire « it's not a number ». Donc, il ne faut pas appeler cette méthode « try again ». Alors, comment on va faire pour résoudre ça? Simplement, je vais vous demander votre avis déjà. À votre avis, comment on fait pour que ça ne s'affiche pas et pour ne pas appeler la méthode « try again » ? Je vais faire en sorte de faire renvoyer à la méthode PickANumber une valeur un petit peu particulière. On va dire que c'est un code d'erreur. Je vais faire en sorte que PickNum, la variable PickNum, contienne une valeur différenciante. Et en fait, je vais utiliser une valeur négative. En principe, par convention, c'est ça les codes d'erreur. Donc, je vais dire que PickNum égale moins 1 dans le cas où ce n'est pas un number. Du coup, dans la méthode appelante, dans la méthode appelante, ici, si ce n'est pas un nombre, je vais avoir picNum qui vaut la valeur moins 1. Et à ce moment-là, il suffit que je rajoute un if au-dessus de ce bloc-là. If picNum supérieur ou égal à 0, je traite le nombre tapé ou non. Alors, pourquoi j'ai mis supérieur ou égal à 0 plutôt que différent de 0? C'est simplement parce que si par la suite, dans mon application, je souhaite traiter d'autres codes d'erreur, moins 2, moins 3, etc., du coup, ce code-là fonctionnera toujours. On essaye. Je tape du texte. Il me dit « that's not number ». Si je tape un nombre, il me dit « c'est plus ». OK. Maintenant, je voudrais améliorer encore un petit peu mon application et améliorer en fait l'expérience utilisateur. Je voudrais signaler à l'utilisateur si sa saisie est erronée dans le sens où elle serait pas en, le nombre ne serait pas compris entre 1 et 20. À vous. Dans ce cas-là, ce que je veux faire, c'est améliorer mon try again. Donc, j'ai bien saisi un nombre, mais je vais signaler. En plus du fait que si c'est plus ou moins, je vais signaler aussi que la saisie est erronée. Donc, je vais rajouter if picNum inférieur à 1 ou alors, donc, si picNum est égal à 0 ou qu'il est supérieur strictement à 20, c'est là que je veux dire la saisie est erronée. Alors, on peut faire des combinaisons comme ça de conditions dans le if. Et ça se fait. Donc, on peut mettre des « ou », des « et », etc. Donc, le « ou », ça se fait avec un double « pipe ». Donc, c'est la double barre vers le vertical. Donc, « if picNum inférieur à 1 » ou « picNum strictement supérieur à 20 ». Ça, c'est mes cas d'erreur. Alors, je mets toujours les conditions chacune des conditions entre parenthèses, ça évite les erreurs de priorité d'opérateur et ça fait moins de bugs. Si PicNum est inférieur à 1 ou supérieur à 20, on va dire dans le label d'information, la saisie, ce nombre n'est pas valide plutôt. Ce nombre Et du coup, on ne doit pas passer dans la suite avec c'est plus ou c'est moins. Donc on va faire un else qui encadre tout ça. Allez, on réessaie. Je tape du texte, il me dit c'est pas un nombre. Je tape 0, il me dit c'est pas valide. Je tape 67, il me dit c'est pas valide. Et si je tape un nombre 6, il me dit c'est plus. Ça fonctionne. Allez, un dernier petit effort, on y est presque. Ce que je souhaite faire encore, c'est désactiver le bouton valider une fois que j'ai gagné, jusqu'à ce qu'on clique sur nouvelle partie. Pour ça, je vais devoir manipuler une des propriétés du bouton valider. Vous pouvez essayer de le faire vous-même. Cette propriété du bouton valider, elle s'appelle isEnabled. Donc ce que je vais faire, c'est une fois qu'on a gagné, donc dans le uwin, je vous disais que ça avait un sens de faire une méthode uwin, on va vouloir rajouter quelque chose dedans. Une fois qu'on a gagné, donc du coup on sait exactement où positionner ce code. Donc btValidé.isEnabled. Par défaut le bouton est activé. Donc je le désactive. Et je le réactive quand? Eh bien, une fois que je clique sur nouvelle partie. btValidé.isEnabled. On essaye. Quand on démarre l'application, on appelle nouvelle partie, donc c'est normal que le bouton soit actif. J'essaie de gagner. Plus. C'est gagné. Hop, validé, passe en désactivé. Et je clique sur nouvelle partie et il est activé à nouveau. Donc ça fonctionne bien. Pour les plus courageux, vous pouvez faire encore un dernier exercice qui est celui de coder le nombre d'essais ici qui s'incrémente au fur et à mesure que l'utilisateur rentre un nombre. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. De toute façon, le code source est joint à ce cours sur le site. Ce module 3 est conçu en deux parties, puisque vous remarquez que l'application est quand même très très épurée, je dirais, et très très simpliste en termes d'ergonomie. C'est là que je vais demander à Michel Rousseau, notre designer, de venir nous aider. Il va vous montrer comment, avec un outil Blend, il va reprendre ce projet et ses sources. Il ne va pas les modifier du tout, en fait, hein. Il n'y aura pas du tout de code source qui sera à écrire pour cette étape-là. Mais c'est le même projet qu'on va rouvrir dans Blend et qui va nous donner cette application-là. Donc sans retoucher les sources, vous allez voir qu'on va toucher uniquement à tout ce qui est XAML, mais sans écrire de XAML, uniquement à la souris. Vous allez voir, c'est bluffant. Alors à tout de suite pour la deuxième vidéo avec Michel Rousseau.